rapportons les choses à nous. C'est pourquoi notre vision du monde de nous-mêmes et des autres est souvent si étriquée et si destructrice. Dit autrement, nous voyons le petit côté où nous disons du mal. Et c'est terrible, parce que le Seigneur ressuscité qui passe, c'est celui qui édifie, qui construit, et qui noue et renoue les relations. Mais je sais bien que les relations se cassent pour un oui, pour un non, c'est vrai. Et puis on se ferme à l'autre parce qu'il ne nous a pas reconnus, ou parce qu'il a dit une parole qui nous a frappé et qu'il n'a pas fait attention. Ça arrive tout le temps, des choses pareilles. Mais voyez que Jésus reprend. Il commence. Et nous n'avons pas cette persévérance dans le commencement. Et le recommencement est toujours pardon. Pardon à nous-mêmes, pardon à notre frère, à nos sœurs, pardon à nos limites, pardon à celles des autres. Et Jésus fait cela. Et puis tout d'un coup, il nous dit, mais oui, mais au fond, votre vie, vos relations, etc., à quoi ça sert? Qu'est-ce qui les centre? Qu'est-ce qui en fait le nœud? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Allez, qui les hommes disent-ils que je suis? Bon, ben, c'est cela ou cela. Et ils ramènent toujours à ce qu'ils connaissent bien. Élie, le prophète, un des prophètes. Pourquoi connaître? On ramène toujours à son connu, à son savoir. Jésus dit, vous, qui dites-vous que je suis? C'est au creux d'une relation profonde, la plupart du temps silencieuse. Mon bien-aimé, celui dont j'attends tout, mon Christ, notre Christ. Passer de mon à notre, c'est encore un passage. S'il est sauveur pour moi, il l'est pour mon frère et pour ma sœur. Et donc il me donne d'être en même temps sauveur pour mon frère et pour ma sœur. J'ai une tâche. Il me met en route. Vous avez vu que il prend 4, puis il prend 12. Les 12 ne sont pas encore bien formés, et il les envoie déjà. Et c'est sur le tas qu'ils apprendront qui est Jésus. Quand ils verront qui passe à travers eux. C'est étonnant quand même. Mais il faut aussi avoir le regard pour pouvoir lire. Et puis une fois qu'il a ramené tous les hommes de leur centrage sur eux-mêmes, de leur maîtrise de leur propre existence vers lui, qu'il les a en quelque sorte démaîtrisés d'eux-mêmes, il les a rendus libres, et bien maintenant ils peuvent suivre. Et suivre, c'est se retourner. C'est tout le temps prendre le contre-pied de ce qu'on prenait d'habitude. Au lieu de partir de soi, on part de lui. Et ça change tout. Il est le nœud, il est le sens, le centre de nos vies. Et alors, les choses restent aussi pénibles qu'elles l'étaient. Les maladies restent aussi dures qu'elles l'étaient. Nos bévues restent aussi bévues qu'elles l'étaient. Nos péchés restent aussi péchés qu'ils l'étaient. C'est pas de baguette magique, hein? Mais il est au cœur de cela. Et il nous faut constamment redécouvrir qu'il est au cœur. Il est celui qui m'appelle par mon nom propre. C'est ça que je veux dire. Quand j'utilise cette expression, je deviens un fils, une fille, bien aimé, en tout. Donc je suis précieux. Si je suis précieux à ses yeux, je suis précieux pour moi-même. Donc je ne peux pas me faire du tort. Que les autres maintenant me reconnaissent ou ne me reconnaissent pas, c'est encore secondaire, puisque lui m'a reconnu. Et le suivre, c'est crucifier mon avoir, c'est crucifier mon pouvoir, et c'est ne plus désirer. Ne plus désirer de ce désir possessif. C'est d'avoir mon cœur ouvert, béant. En termes psychologiques, frustré. Hein? Pas avoir peur des mots. Mais en être heureux. En être heureux parce que tout ce qui se passe dans le monde, tout le bien qui se passe, même au creux du mal parfois, hein, Dieu sait les situations que nous avons à porter, même dans nos familles, dans ce monde, dans nos familles, que ce soit la drogue, que ce soit la maladie, que ce soit les divorces, les déchirures, les enfants dont le père et la mère s'en vont, etc. Toutes ces ruptures, je ne nie pas. Mais elles sont habitées par sa présence. Et cela change au moins notre regard. Je pense que ça change beaucoup plus, que ça change la réalité elle-même, mais au moins notre regard. Et toutes ces réalités que nous connaissons, ces réalités humaines, sont des membres vivants de notre Sainte Église. La Sainte Église, ce n'est pas seulement ceux qui vont à la messe le dimanche. La Sainte Église, c'est ce monde entier en attente. Et en état de résurrection. Pénible, douloureuse, onéreuse, et ça prend du temps. Et c'est pourquoi je pense que nous devons avoir un regard plein d'espérance pour ce monde. Plein d'espérance. Et que notre regard doit être à l'affût de tout ce qui est bon. Et vous verrez que vous deviendrez bon aussi, à ce moment-là. Au lieu de détruire, vous vous mettrez à construire, c'est-à-dire à ressusciter le monde. Chacun a sa petite place, une toute petite goutte, une demi-goutte parfois. Dans la conclusion de mon livre, et donc c'est ça, oui, pardon, je n'ai pas terminé, et donc c'est le cheminement que Jésus nous demande de faire. C'est-à-dire cette morale de l'Évangile qui n'est pas une morale de précepte, de prescription, qui est une morale d'ouverture. Et donc de discernement. Comment Jésus agit-il aujourd'hui dans ce monde? Le discerner et essayer de le vivre, plutôt laisser le Seigneur le vivre en nous. C'est encore mieux. C'est-à-dire abandonner ce à quoi nous tenons pour le laisser exister. Ça, c'est tout le chemin de la quatrième étape. Et là, à partir de la cinquième étape, nous commençons à découvrir ce que c'est que d'entrer dans l'intimité du Père. C'est d'abord monter à Jérusalem. Et monter à Jérusalem, c'est en quelque sorte s'exposer aux colibiers, aux controverses, etc. Vous avez bien vu, les controverses, on se demande tout le temps qui est Jésus, et on l'attaque, etc. Bah oui, bah on nous attaquera aussi, hein. Pour voir si ça tient. Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est un des prophètes? Ou est-ce que c'est Jésus lui-même? Faut voir. Et donc Jésus nous entraîne et nous le regardons. Et le regarder, le contempler en controverse, même en nous, hein, il y a tous les doutes qui sont en nous. Il ne faut pas les oublier, ils sont présents. Nous partageons les doutes de notre monde quand même. Et devant ce mal, entre guillemets, le mal qu'on ne connaît pas dans l'Évangile, hein, il y a des choses mauvaises, il y a des choses malheureuses, mais le mal abstrait, ça n'existe pas dans la Bible. Parle toujours concret. Il y a de la méchanceté dans le monde. Mais Dieu la regarde autrement que nous. Dieu la travaille. Et nous regardons Jésus. C'est lui qui est aux prises avec tout ça. Et nous, comme les disciples, nous regardons. Nous sommes en quelque sorte extérieurs. Nous nous réjouissons quand il monte à Jérusalem. Et puis nous enfuyons comme des lapins quand ça va mal. Et Jésus entre seul dans cette intimité du Père, abandonné par son Église, abandonné par le judaïsme, toutes ses racines, et abandonné par les païens qui ne comprennent pas. C'est l'image de notre monde. Et Jésus entre seul. Et il a besoin d'âmes solitaires et silencieuses qui ne font rien d'autre que de l'accompagner. C'est la place des contemplatifs, religieux ou non, peu importe, des contemplatifs dans ce monde. Indispensable. Indispensable parce que ils accompagnent Jésus allant vers le Père. De loin, les femmes suivent de loin. Les disciples sont endormis. Et tandis que nous sommes endormis, eh bien, le Seigneur est là. Et autour de lui, des hommes, des femmes surtout, qui entrent dans cette souffrance du monde et qui la partagent avec lui. Et ce sont ces femmes, parce qu'elles ont subi ce déchirement, et en même temps qu'elles aiment et qu'elles n'ont pas abandonné le lieu, c'est parce qu'il y a des femmes, que l'annonce va parvenir à ceux qui s'étaient enfuis. Les femmes sont en train d'enfanter ce dont on parlait au chapitre 13, d'enfanter ce nouvel, je ne veux pas dire ce nouvel âge parce que ce serait ambigu, mais ce nouveau monde, ce monde de la résurrection. Et si vous avez ce petit livre de Anne-Marie Pelletier, Le christianisme et les femmes, elle montre très bien à travers toute l'histoire de l'Église, depuis l'Évangile jusqu'au XXe siècle, au XXIe siècle, elle montre très bien cette influence profonde, cette action profonde, je dirais ce ministère profond des femmes. Comment elle transforme à chaque époque, elle contribue à la transformation de cette Église. Toujours hommes et femmes. Mais comme on souligne souvent le rôle des hommes, hein, des papes, des empereurs, des maris, etc., il est bon parfois d'aller voir du côté des femmes aussi. C'est ce qu'elle a fait, Anne-Marie Pelletier, donc le christianisme et les femmes. Et donc voilà, nous avons fait un chemin d'église. On a dit, enfin les exégètes disent, et je crois qu'ils n'ont pas tort, ou les théologiens, disent que la christologie de Saint-Marc et son ecclésiologie se fondent l'un dans l'autre. Et c'est vrai, ça veut dire, la manière dont Saint-Marc raconte Jésus, c'est la manière dont saint Marc raconte notre Église, dit en termes simples. Et c'est vrai, et c'est de là son actualité. Et c'est cela justement que Philippe Bach et Odile Ribadeau-Dumas mettent en évidence dans leur petit livre, et qui est certainement à méditer. C'est d'ailleurs avec Philippe Bach que nous avons pour la première fois lu cet évangile de Marc à l'IET, il y a 30 ans d'ici, quoi. Et voici comment j'essaye d'expliciter cela dans ma conclusion. Pardonnez-moi si je me cite. Bref, la venue des femmes au tombeau, et ici je cite d'abord Jean Delorme, ouvre une suite narrative où l'on évoque la naissance de la foi en la résurrection de Jésus. Et le fait décisif, c'est l'auto-témoignage du ressuscité. Il n'y a rien qui peut expliquer la résurrection. Mais la résurrection explique le reste. Or, nous voudrions avoir, pas sur la résurrection, pouvoir l'expliquer. Mais ce n'est pas possible. Parce que si nous avions nous pouvions l'expliquer, nous serions plus grands que la résurrection. Le fait décisif, c'est l'auto-témoignage du ressuscité qui se donne à voir. Marc nous laisse devant un mystère révélé par la parole de Dieu qui mettait les femmes en déroute. Ça, c'est Jean Delorme qui le dit. Je continue. Dès lors, il faudra faire face à ceux qui mettront en doute ce témoignage de foi en élaborant une apologétique du tombeau ouvert dont on va assurer qu'il est bien vide. On ne dit jamais qu'il est vide, hein. On nous dit qu'il est ouvert. Il n'est pas vide, il est rempli de la présence du Seigneur ressuscité. Pourtant, l'annonce portera toujours en priorité sur la révélation du ressuscité aux siens et sur leur transformation par l'Esprit. Comment se fait-elle que les femmes aient dépassé leur peur? Ça, le problème. Ah ben, c'est que l'Esprit Saint était à l'œuvre, tiens. Ils ne sont pas arrivés toutes seules, hein. C'est pas la force des poignets. Sans que jamais le tombeau vide soit considéré comme la preuve de la résurrection. Ce n'est pas une preuve, c'est un signe. Le cadavre était là, il n'est plus là. Nous étions cadavres dans notre vie, nous disions la mort. Et voilà que tout d'un coup, nous disons la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ressuscité, il n'est pas ici. Voilà ce que dit le messager. Et non pas, il n'est pas ici et donc il est ressuscité. Ce serait tout à fait le contraire. Ce n'est pas une preuve, c'est un petit clin d'œil. Le silence des femmes dont témoigne Marc ôte au lecteur l'envie de fonder leur foi sur l'expérience qu'elles ont faite, messagères d'une révélation qui les dépasse. Elles sont témoins de la présence du ressuscité qui ravit les hommes à eux-mêmes et leur fait découvrir au sein de leur foi l'abîme qui les épouvante. Autrement dit, je n'ai jamais fini de croire. Et ma foi est toujours accompagnée de doutes. Je n'ai pas une foi pure. Et notre Église non plus. Cette transformation des croyants ne peut par ailleurs se réduire à une réalité subjective. C'est parce qu'ils ont eu une illumination intérieure. Non, 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 non. Car le temps et le lieu où elle s'effectue sont ceux de la mort et de la résurrection de Jésus. Il faut toujours une référence à l'histoire de Jésus. Et non plus ceux qui évaluent les hommes. C'est pas seulement « il me semble que ». Ma foi n'est pas seulement « il me semble que ». C'est une vie qui me traverse. Si enfin on s'interroge sur l'historicité, entre guillemets, de la démarche des femmes, on peut certes utiliser les instruments de la critique pour établir l'existence de traditions sur la visite infructueuse des femmes au tombeau et sur des visions de disciples et d'apôtres, sur la transformation de ces poltrons en croyants audacieux. On peut faire tout ça, hein, et il faut le faire. C'est-à-dire aller rechercher derrière le texte comment petit à petit cette foi s'est exprimée dans l'Église primitive. Mais l'affirmation de Marc échappe à l'investigation précise de la science historique. Il ne s'agit pas de détails, de dates ou de lieux sur lesquels on pourrait mettre la main, puisqu'elle se donne comme annonce de la résurrection de Jésus, transmise en tant que parole de Dieu, c'est-à-dire dans un livre. Le fait brut de la disparition du corps ne nous est accessible qu'à travers le témoignage des disciples livré dans un texte, fruit d'une tradition, où est impliquée une vision du monde et de l'homme qui ne relève pas de la seule histoire phénoménale, mais de la foi qui éclaire et fonde cette histoire d'une manière nouvelle. Je ne ramène pas tout ce qui m'est donné à ma conception de l'histoire. mais j'ouvre mon histoire à la lumière de ce qui m'est donné dans ce livre. Et puis, quelques pages plus loin, qu'est-ce que le ressuscité nous dit ? Non pas qu'est-ce que je comprends, je ne comprendrai toujours qu'une parcelle. Qu'est-ce que le ressuscité nous dit à travers ce texte écrit par Marc ? La totalité qui se donne dans une réalité qui n'est pas totale. Marc n'a pas la totalité de la vue de Jésus. Jésus, oui. Marc, non. Et par un inconnu de la primitive Église, qui va ajouter une dizaine de versets. Conscient à la fois de la présence du Seigneur glorifié dans sa communauté et de la difficulté de transmettre la foi en lui. C'est bien ça que nous trouvons dans le chapitre 16. Foi en la présence du ressuscité vivant et assumant notre existence et en même temps difficulté de transmission. Et cette difficulté se fait particulièrement sentir dans notre monde où la foi ne se transmet plus comme autrefois de père en fils ou de mère en fille à travers un milieu croyant. Non. Nous avons la grâce de ne plus être dans un milieu croyant. C'est une autre grâce que celle des siècles passés, mais c'en est une aussi. C'est la nôtre en tout cas. Si nous abordons ce récit en cherchant une lumière qui confine à l'évidence, ou une certitude qui verse en nous une sécurité toute faite, nous sommes frustrés dans notre désir, comme les femmes, étonnés de n'avoir plus au bout de leurs doigts le cadavre qu'elles voulaient amoureusement embaumer. Nous quêtions quelques consolations capables d'adoucir l'amertume de la mort ou la banalité implacable de notre vie quotidienne. Mais il ne nous est donné en partage que l'effroi et la crainte et la fuite de nos responsabilités, comme ces parfumeuses du matin de Pâques. Et voilà où l'Évangile entre dans notre existence. Tant que nous le regardons du dehors, ça va, c'est un tableau. Mais quand nous nous laissons pénétrer du dedans, ça nous met en route. Nous voudrions une preuve indiscutable de la résurrection de Jésus. Une preuve qui se situe ailleurs que dans la foi. Aussi, nous attachons-nous à nos questions, sans prendre garde à l'hémorragie que nous faisons subir à notre foi, dont le contenu s'écoule bientôt en gnose et en idéologie. On trouve des faux fils, hein? On se donne des justifications. C'est comme la femme qui perdait son sang. Les événements de la Pâque de l'an 30 ont transformé des femmes craintives en messagères et des lâches ou des traîtres ou des renégats en témoins confessants. Et ça, c'est essentiel. C'est pas un coup de baguette magique qui les a transformées. C'est une présence. Qu'est-ce à dire ? Ici, je commence par citer un passage de Adolphe Guéché, une analyse rigoureuse du langage de la résurrection nous montre que son lieu propre d'intelligibilité n'est pas le récit historique, mais la confession de foi. C'est-à-dire la foi de ces premiers disciples qui nous est transmise par les femmes, puis par les apôtres qui avaient une relation personnelle avec Jésus, puis par l'évangéliste Marc, c'est là le lieu d'intelligibilité, c'est-à-dire le lieu de notre foi. Nous ne croyons pas en une vision que nous pourrions nous faire par nous-mêmes. Vous savez, nos caméras, même si elles avaient pris des photos au moment où les femmes sortaient du tombeau, nos caméras n'auraient jamais dit la réalité. Il aurait fallu être au cœur de ces femmes et voir la transformation qui s'était faite en elles. Et elles nous le disent. Si nous essayons de les croire. L'Église nous le dit depuis 2000 ans. Mais est-ce que nous croyons vraiment le profond de ce qu'elle nous dit? Ou bien nous laissons-nous envahir par ce qu'on nous dit qu'elle nous dit? Si l'événement de la résurrection laisse sa trace dans l'histoire des hommes, c'est moi qui reprends la parole, il ne peut être saisi entièrement par le biais de la vérification historique. Il doit encore prendre corps dans la foi et la proclamation de témoins. Quand Paul vient à Athènes, et là, sur l'aréopage, devant les grands savants et les notables, les gens qui savent d'Athènes, il parle de sa foi qui est déjà la leur, puisqu'ils ont soif d'un Dieu inconnu. Il parle de sa foi. Il est pour ces hommes le témoignage de la résurrection, le témoin vivant, et devant lequel on est libre. On croit ou on ne croit pas. On croit un peu ou on croit beaucoup. Mais il est cette résurrection qui nous est apportée. À pied d'œuvre. Comment comprendre ce langage de la foi qui nous est transmis par des témoins et de proche en proche? La résurrection serait-elle moins un événement advenu à Jésus qu'une transformation intérieure des disciples? Comme si Jésus mort physiquement ressuscité dans la parole, dans le kérigme. On a écrit tout ça, vous savez. Si je parle comme ça, je parle à partir de lecture. Et il y a des notes qui le signalent. Il y en a des gens qui disent, ah, Jésus est mort, mais il est ressuscité dans la tête des disciples, ou dans la foi des disciples. Mais lui-même est resté mort. Mais quel lien y aurait-il alors entre le fait de cette mort et le sens qu'elle prend pour les chrétiens, puisque cette conception dissocie définitivement la foi de l'histoire? Non. Il y a une transformation des disciples. Et c'est ce témoignage qui nous frappe d'abord. Mais ces disciples n'ont été transformés que parce que le Christ est passé en eux. C'est pourquoi le mystère de Pâques comprend toujours un tombeau vide, c'est-à-dire une question, et donc des signes qui nous demandent à répondre, des témoignages que ce mort est vivant, et l'Esprit Saint qui nous le fait lire. Sans ce même Esprit Saint, pas moyen que le témoignage passe. Ce sont les trois conditions essentielles. Et ce sont les trois points que vous trouvez toujours dans les relations des évangiles. L'Esprit Saint est très discrètement présent. Dans Saint-Marc, vous ne le voyez pas, sinon dans le témoignage qui passe à travers les communautés. Il est beaucoup plus présent, par exemple, chez Luc. Parce que Luc focalise son évangile sur cette présence. C'est ça qui l'a frappé, lui. Dira-t-on, je continue, que la continuité existe entre l'histoire de Jésus et la foi des disciples, en ce sens qu'ils l'ont vu vivant après sa mort, et que leur expérience se traduit dans l'affirmation de la résurrection, comme une interprétation parmi d'autres. Ça se dit et ça s'écrit. Signifie-t-elle que, je reprends le titre d'un livre, l'affaire Jésus continue? C'est-à-dire que Jésus continue de nous interpeller aujourd'hui et de nous envoyer en mission à la suite des apôtres? Est-ce que tout ça suffit? Ou bien, le message du jeune homme en blanc est-il la parole par laquelle l'absence même du corps, qui est la contradiction de sa présence, absence c'est le contraire de présence, est échangée, et que par la parole de sa présence, par sa présence comme parole, par le message « il est ressuscité », l'être émerge à nouveau, mais dans l'ordre symbolique, je cite, ça c'est écrit, le message de la résurrection serait alors la substitution au corps de Jésus du texte évangélique. Nous n'avons plus le corps, nous avons un texte. Comme lieu de la communication pour la communauté primitive comme pour celle d'aujourd'hui. Voilà toutes sortes de questions que l'on pose. Et donc qu'il faut prendre, assumer dans notre foi. Ces différentes interprétations risquent bien de demeurer en deçà de la réalité du mystère, pour la bonne raison qu'elles veulent toujours prendre, c'est-à-dire comprendre, ramener à nous. Ces différentes interprétations risquent bien de demeurer en deçà de la réalité du mystère, non plus comme dans une conception historicisante, en le réduisant à la phénoménalité brute de l'événement sensible, mais en le ramenant à un langage, à un symbole, mais pris dans un sens éthéré, hein, voire à une idée qui n'est plus qu'une puissance d'interpellation sans contenu positif. Et tout ça se dit. En fait, si Jésus est reconnu vivant, c'est qu'il est vraiment vivant. À nous d'en faire la preuve. Qui dis-tu que je suis? Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. À nous de commencer. Si Jésus est reconnu vivant, c'est qu'il est vraiment vivant, c'est-à-dire passer à une autre vie, celle-là même qui constitue le cœur de la Trinité. En cela, il inaugure le monde nouveau et définitif des derniers temps. Sa résurrection, historiquement repérable, importance, historiquement repérable, représente pour nous l'avènement final. Je dis eschatologique, mais c'est ça que ça veut dire, l'événement total décisif du salut dans la résurrection des morts. Dit en paroles tout à fait simples, je ne peux parler de Jésus que parce que je crois qu'il vit en moi. Et si vous pouvez reconnaître qu'il vit en moi, ou dans cette parole de Marc que j'essaie péniblement de vous transmettre, vous reconnaîtrez qu'il vit en vous. Et cela donne un sens définitif à notre existence, à vous et à moi. Et je voudrais, pour terminer, reprendre un verset de saint Paul. Un seul. Pas un chapitre. Quand même que je vous en lise deux avant. Pour mettre dans le cadre. Commence son épître aux Romains, qu'il adresse à des gens qu'il ne connaît pas personnellement, mais il sait qu'ils existent. Il y a une communauté à Rome. Comment s'adresse-t-il à ces Romains. D'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à votre sujet, à tous. De ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. Car Dieu m'est témoin que je rends un culte spirituel. C'est-à-dire que je rends témoignage aux vivants en annonçant l'évangile de son Fils. Annoncer l'évangile, c'est rendre vivant le vivant. Avec quelle continuité je fais mémoire de vous et demande constamment dans mes prières d'avoir enfin une occasion favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous. Et alors, voici le verset que je voulais vous citer. Car j'ai un vif désir de vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour vous affermir. Puis tout d'un coup, il se corrige. Ou plutôt, éprouvez le réconfort parmi vous de notre foi commune à vous et à moi. Eh bien, en terminant, c'est ça que je peux dire. Je vous remercie, je remercie le Seigneur, et je vous remercie d'avoir pu éprouver pendant 4 jours le réconfort parmi vous de notre foi commune à vous et à moi. Merci de m'avoir donné ce témoignage.